Donc voilà, la première, premier thème est terminé. Donc on va passer maintenant à la question démocratique. D'abord, est-ce que finalement l'adoption par voie parlementaire est-elle démocratique compte tenu du vote des Français il y a 2 ans? Est-ce que la CIG, la conférence intergouvernementale qui a rédigé le traité modificatif, est-elle représentative finalement du choix des Français et des Hollandais? Et puis une troisième question qui va orienter les intervenants, c'est les institutions européennes seront-elles demain plus démocratiques à travers, grâce ou à cause de ce traité? Donc voilà, la parole est à Jean-Luc Mélenchon, qui représente pour la République sociale et qui est sénateur socialiste.
Bien, bonsoir à tous. Nous commençons ce soir à Montpellier une campagne qui devra se dérouler dans un temps bref et extrêmement intense, puisque si nous l'emportons, eh bien, nous serons fixés à la date du 12 février, date à laquelle vote le congrès du Parlement à Versailles. Dans un instant, j'expliquerai pourquoi. Et si nous n'avons pas gagné, si le vote du congrès du Parlement ne nous donne pas raison, alors, quelques jours après le 12 février, chacune des deux assemblées sera convoquée et votera séparément, à la majorité simple, l'adoption du nouveau traité. C'est-à-dire qu'il suffira quelques jours plus tard que la seule UMP vote ce qu'elle veut, les supplétifs ne voteront pour rien dans cette affaire, et le traité sera adopté. Nous sommes donc au début d'une campagne brève, dense, où nous devons retrouver le meilleur de ce que nous avons su faire la dernière fois, sur plusieurs mois, le faire en quelques semaines. Je pense que, comme la fois précédente, notre méthode sera celle de la démocratie. Expliquer, respecter le point de vue qui n'est pas le sien, argumenter plutôt qu'affirmer, n'injurier jamais, ne mettre jamais personne au pied du mur, autrement que de façon raisonnée et argumentée. Nous avons des outils pour le faire. Le premier de ces outils, c'est que nous avons réussi à constituer un comité national pour le référendum. Ce n'est pas souvent, et je demande qu'on prenne un instant pour y réfléchir, que l'on trouve attelé à la même tâche, regroupé sur un même objectif, un arc de force politique qui inclut des personnes aussi différentes que votre serviteur, quelques autres de ce parti, mais également tous ceux qui sont à cette tribune, ainsi qu'Alain Crivine, Arlette Laguiller, Noël Mamère et combien d'autres. Je considère que c'est un bon point de départ si chacun honore sa signature d'un engagement personnel militant pour expliquer et convaincre autour de soi, et nous n'avons aucune raison de douter que tous ceux qui ont signé s'apprêtent à le faire. En moins de 15 jours, plus de 40 000 signatures sont remontées, c'est bon. C'est le premier point, l'existence de ce CNR comme un point d'appui pour nous. Maintenant, je vais vous dire, moi, je sais en toute hypothèse ce que je ferai et quel vote j'aurai sur le traité. Ce ne fut donc pas l'enjeu de cette discussion. L'enjeu de notre travail, c'est de convaincre ceux qui ont voté oui, que par dignité et respect du peuple français et de la démocratie, il faut donner les moyens qu'un référendum ait lieu. C'est eux qu'il s'agit de convaincre avec les armes de la raison. Et le premier argument que nous mettrons en avant, c'est que tout ce qui concerne l'Europe nous concerne très directement, notamment lorsqu'il s'agit de la démocratie. Non, la crise des superstructures européennes n'est pas quelque chose qui se déroule loin de nous. 80% des lois qui s'appliquent dans notre patrie républicaine viennent de la Commission européenne. Par conséquent, tout ce qui concerne le fonctionnement de l'Europe implique directement la nature ou non démocratique de notre propre pays. Deuxièmement, nous leur dirons, nous savons que vous n'êtes pas de ces cyniques qui ne veulent pas d'un référendum pour la seule raison qu'ils en connaîtraient d'avance la réponse. Parce que pour sa part, le président de la République, lui, a vendu la mèche. Lui, qui si souvent nous demande des marques d'affection et qui les réclame d'une manière si puérile à la télévision et dans les médias, pour quelle raison je ne suis pas d'un référendum? C'est parce qu'il suppose que la réponse ne lui serait pas favorable. Je n'accuse pas, je le cite. Et cette citation, elle vient d'un journal anglais que peut-être vous avez lu. Il dit « Des référendums sur le nouveau traité européen seraient dangereux et perdants en France, en Angleterre et dans d'autres pays. » il y a un gouffre entre les peuples et les gouvernements. Il dit, un référendum aujourd'hui mettrait l'Europe en danger, il n'y aura pas de traité si un référendum a lieu en France, et il en va de même pour un référendum au Royaume-Uni. Ce sont les propos d'un cynique, mais c'est aussi toute une vision sur laquelle, dans un instant, je rappellerai les antécédents. Qui veut qu'un seul, c'est mieux que tous les autres, ce qui est bon pour tous. Nous leur dirons qu'on ne peut pas considérer comme une consultation démocratique, fût-ce d'un Parlement, un document dont on vous annonce qu'il est simplifié, alors qu'il comporte 250 pages, 53 déclarations, 12 protocoles, rédigés dans des conditions telles qu'à l'heure à laquelle je vous parle, il n'existe aucune version consolidée du traité, c'est-à-dire quelque chose qui peut se lire d'un bout à l'autre, comme vous l'avez fait peut-être la dernière fois si vous étiez courageux, mais cette fois-ci, même si vous êtes courageux, vous ne pouvez pas y arriver. Je vais vous en donner un exemple, il ne sera pas long. Il y en a 356 comme ça, et c'est ça qu'est le nouveau traité. Je cite, ouvrez les guillemets, ouvrez la parenthèse, V. Le paragraphe 2, renuméroté 3, est modifié comme suit, 2 points. Ouvrez la parenthèse, I. Au premier alinéa, les mots suivants sont ajoutés à la fin. 2 points. Ouvrez les guillemets, point de suspension. Et respecte l'action de l'Union dans ce domaine. 356 points. Il y en a 198 qui concernent directement une partie qui était censée disparaître du traité parce qu'elle posait problème à ceux qui ont voté non, c'est-à-dire la partie 3. Ah, je me signe qu'il me reste une minute, je vais donc en rabattre de mes arguments. Le texte a déjà changé 2 fois, il changera une 3e fois le 13 décembre, le moment où les chefs d'État auront signé. Alors sommes-nous les manants qui viennent leur béret à la main demander à leur prince s'il veut bien les consulter? Non. Nous sommes un peuple libre qui dispose des moyens de sa liberté. Il y aura 3 votes parlementaires. Les 2 premiers sont certains. Premièrement, le Sénat d'un côté et l'Assemblée nationale de l'autre seront convoqués pour voter chacun de leur côté. Le texte qui ensuite sera présenté au Congrès du Parlement, car il faut d'abord modifier la Constitution française pour pouvoir ou non ratifier le traité. Retenez bien ce point pour expliquer aux autres. Il faut d'abord modifier la Constitution française. Pour 2 raisons. Le contenu du traité déroge aux dispositions de la Constitution française, il faut donc rendre celle-ci compatible avec le traité. Il y a une 2e raison. C'est que la dernière fois, à l'article 88.1, nous avons introduit dans la Constitution française le fait que la France applique le précédent traité auquel vous avez répondu non, il faut donc retirer cette phrase. À l'instant où nous réunissons le Congrès du Parlement, le président de la République est obligé d'obtenir cette modification pour pouvoir ensuite convoquer le Parlement et faire ratifier par voie parlementaire. Il ne peut faire cette modification qu'à la majorité des 3/5 des voix. Il ne les a pas. Et nous pouvons nous y opposer. À la minorité des 2/5 des voix, nous ne les avons pas non plus. Il nous manque, à la condition que tous les parlementaires de gauche, qu'ils soient partisans du traité ou qu'ils y soient hostiles, par respect pour la démocratie, si tous les parlementaires de gauche, comme tous leurs candidats, sans aucune espèce d'exception, l'ont promis dans la campagne présidentielle. Et pour ce qui concerne mon propre parti, comme il l'a voté à son congrès et comme il l'a introduit dans son projet, en plus de ce qu'a dit la candidate. S'il décide de donner la parole au peuple, il faut pour cela qu'il vote contre la modification de la Constitution française. S'ils le font, il ne nous manque que 8 voix. Je préfère que nous perdions l'idée d'une consultation populaire parce que la droite l'a empêchée qu'à cause de la gauche. C'est le premier point. C'est que j'ai à vous dire qu'il y a 30 centristes parmi lesquels il y en a bien un ou deux auront mauvaise conscience après que leur candidat ait promis un référendum de faire le contraire dans une assemblée. Et parce qu'il y avait 15 souverainistes de droite qui également s'étaient prononcés pour le non et qui sont mis au pied du mur de savoir si leurs belles paroles sur les déclarations de la souveraineté nationale, ce sont des paroles qui correspondent à la souveraineté populaire, qui est le fondement de toutes les bases. Je dois finir parce que mon temps de parole est écoulé. Je le fais sur une image de l'histoire. Nous pouvons être optimistes en nous adressant à nos camarades de gauche, quoi qu'ils pensent, avec respect, pour qu'ils respectent la parole du peuple en les convaincant. Je vous rappelle que c'est le point de départ de l'existence de la droite et de la gauche dans ce pays. Le jour numéro un où la droite et la gauche ont existé, c'est quand le roi, qui prétendait faire adopter le droit de veto, c'est-à-dire d'avoir raison à lui tout seul contre tous les autres, a demandé, conformément à une image biblique, que ceux qui étaient pour le veto et pour le roi se mettent à droite, et que ceux qui étaient pour la souveraineté populaire se mettent à gauche. Nous sommes à notre fondement, une fois et pour toujours en République, qui doit avoir le dernier mot? Le peuple.